J'ai eu la chance de faire des études longues et puis de travailler sur l'histoire et sur le droit, et Cabet était le sujet de ma thèse de doctorat. C'était pas ce sur quoi je voulais travailler au départ. En fait, moi, il y avait une idée qui m'intéressait dans l'histoire, dans les sections d'histoire. Moi, j'aime l'histoire politique, économique, l'histoire des mentalités. Ce qui m'intéressait, c'était le rapport qui existe et la dynamique qui existe entre la conception égalitaire et la conception républicaine. Et donc, tout naturellement, c'était dans le sillage de la Révolution française. C'était balisé comme ça. À l'époque, dans l'histoire, c'est comme dans tous les domaines, il y a des modes. J'ai fait ma thèse en 85. C'est un chantier qui était extrêmement encombré, et y compris sur tous les thèmes, la conspiration des égaux, de Babeuf, et de tout ça. Donc, il fallait se rabattre sur autre chose, et c'est avec le directeur de thèse qui m'avait suggéré, c'était méritant de sa part, parce que tu es un membre actif de l'Action française, ça arrive, et qui m'a dit, mais si le sujet vous intéresse vraiment, enfin, on sentait que ça lui arrachait un peu la bouche, allez voir du côté de ce qui se passe dans les années 1830, 1840, et il me cite le nom de Cabet, dont moi j'avais lu une fois seulement, le nom dans une correspondance de Marx et d'Engels. Et Cabet est cité une fois également dans le manifeste communiste de 48, sous une note de bas de page, où Marx ou Engels, je ne sais plus lequel des deux, écrit qu'au XIXe siècle, il y a deux formes de communisme rudimentaire, eux ayant la prétention d'ailleurs d'incarner un socialisme scientifique, mais il y a deux formes de communisme rudimentaire, celui de Weitling en Allemagne et celui de Cabet en France. C'est la seule référence qu'il y avait. En cherchant dans les catalogues, dans les bibliothèques, etc., le dernier travail remontait à 1903. Donc la voie était libre, et personne n'avait déposé le sujet, ce que je me suis empressé de faire, et ce que je ne regrette pas. Je ne vais pas refaire ma soutenance de thèse ici, hein, c'est énorme. C'est juste resituer le personnage, en quoi il est important, une des raisons pour lesquelles il peut oublier aussi, ce qui est très très frappant, et dans les temps actuels qu'on vit aujourd'hui, où il est de bon ton d'être ni de gauche ni de droite, et... On est en face d'un personnage où c'est carrément l'inverse, puisque lui est le premier à utiliser le terme, enfin pas le premier à utiliser le terme, mais c'est le premier à vouloir en tout cas créer un parti communiste français. On est en 1830, exactement un siècle avant le congrès de Tours de 1920. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet sur Cabet, ce que je vous propose de faire, c'est rapidement vous brosser un peu les étapes importantes de sa vie, son existence. Pas sa vie, son œuvre, mais enfin, en gros, comment situer le personnage dans l'époque. Et après, donc, ce que je voudrais faire, c'est en deux parties, peut-être un peu inégales, mais vous comprendrez pourquoi, c'est quelqu'un qui dit être communiste malgré lui, qui se dit l'héritier de la Révolution française. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, ce qui sera intéressant, il formule sa doctrine, notamment dans un ouvrage devenu célèbre qui s'appelle « Voyage en Icarie ». Je vais y revenir après sur ce qu'est l'Icarie. Et dans une multitude de brochures. Il fait partie de cette génération au XIXe siècle. Ces gens-là écrivent 50 pages par jour, des fascicules, des articles, des monographies, des bouquins. L'un des ouvrages principaux, puisqu'il y en a 4 ou 5 importants, c'est donc ce voyage en Icarie, qui est l'exposé, qui est le détail d'une communauté utopique, bien évidemment, mais on connaît hein, dans l'histoire. C'est Thomas More, c'est Campanella, ça se présente sous forme de roman. C'est un pastiche assez lourd d'ailleurs et assez terne de ce type de littérature. Un jeune lord anglais s'embarque sur un bateau, il arrive sur l'île d'Icarie où on vit le bonheur permanent. Et on a un descriptif ensuite dans tous les domaines. C'est probablement l'utopie la plus achevée. Et j'aurai l'occasion de vous montrer aussi pourquoi, étant la plus achevée, c'est probablement la dernière. Au moins sous cette forme-là. La pensée socialiste se modifiant à partir de là. Qui est Cabet en réalité ? Donc, il vit dans la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire c'est une époque qui va voir naître et se développer une multitude de courants qui se réclament du socialisme. Avec cette particularité, c'est que si tous ces auteurs, je vous les citer tout à l'heure, sont capables de rallier différentes forces d'opposition à la monarchie, aucune n'est capable non seulement de prendre le pouvoir, mais y compris de l'exercer. Et il y a des querelles de chapelle, à plus en finir, entre ces différentes écoles. Alors, étudier la pensée de Cabet ou essayer de s'intéresser au personnage, ça présente déjà un double intérêt. Il a rédigé « Voyage en Icarie » qui est publié en 1840. C'est le tableau d'une communauté, d'une organisation sociale authentiquement communiste. Et c'est déjà une particularité. On a d'autres textes, y compris qui remontent au XVIe siècle. Je pense à l'Utopie de Thomas More, je pense à la Cité du Soleil de Campanella, par exemple. L'intérêt chez Étienne Cabet, c'est que l'ensemble de ce qui va structurer la pensée communiste, du moins telle qu'on la conçoit au XIXe siècle, c'est-à-dire l'abolition complète et définitive du droit de propriété, l'instauration complète et définitive d'une démocratie sociale, et l'instauration complète et définitive d'une société égalitaire, ces trois éléments-là figurent. Dans les autres, ça ne figure pas de la même façon, ou pas avec la même intensité. Donc il a réussi ce tour de force, peut-être le seul d'ailleurs, à avoir créé ce qu'on pourrait appeler un communisme utopique. Sachant que ça va changer par la suite avec la constitution des internationales ouvrières et puis de la pratique. Et par ailleurs, et c'est pas l'aspect le moins intéressant, c'est que ce communisme icarien, bah, il a servi d'expérimentation à une tentative d'établissement d'une communauté aux États-Unis, de plusieurs communautés aux États-Unis. Alors ça, c'est pas très original, hein. Les fourriéristes font la même chose. Ce qui est par contre beaucoup plus singulier, c'est de savoir que cette communauté existe encore. Alors elle n'existe pas sous la même forme. La dernière forme de... Non, en 1840, ils partent en 1847. La dernière communauté s'achève en 1895. Et là où ils considèrent que, mais bon, bah, ça va, on arrête les frais, sauf qu'on reste sur place. C'est dans la région de Chicago. Hein. Cette dernière communauté en 1895, bah, ils ne rentrent pas en France, ils sont américains. Et ils existent toujours, et tous les ans, il y a encore aujourd'hui des célébrations, alors non pas du communisme français, parce qu'aux États-Unis ça se porterait assez mal, ils savent qu'ils sont descendants de lointains révolutionnaires qui sont venus s'installer ici, et qu'après tout, bah, c'est l'occasion. Ouais, la première communauté hippie, par exemple. Hein, c'est un peu dans cet esprit-là que ça se fait. On est en face d'un auteur, s'il y avait un mot pour le résumer, c'est le mot égalité. Et l'égalité sociale. Et pour lui, c'est assez curieux d'ailleurs, puisqu'il va se définir comme communiste, mais en disant qu'il est communiste malgré lui. Il écrit d'ailleurs une brochure qui s'appelle « Le démocrate devenu communiste malgré lui ». Il y a un cheminement intellectuel. On est égalitaire. Il est partisan de l'égalité. L'égalité est entendue dans un sens social. C'est ce qui va faire justement des différentes variations entre tous ces courants socialistes. L'égalité sociale. Parce qu'on est égalitaire, on est nécessairement démocrate. Et parce qu'on est démocrate, on est nécessairement communiste. C'est ça, le cheminement intellectuel que vont suivre Cabet et ses partisans. Il prétendait être devenu communiste à son corps défendant. Malgré, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il est l'héritier de la Révolution française, de tout un courant, et on ne peut pas faire autrement. Il ferraillera d'ailleurs avec tout le monde, avec les religieux de la même façon. Alors ça, c'est un thème commun à tous les utopistes au XIXe siècle, hein, de se dire les seules incarnations de la pensée chrétienne, égalitaire, etc. Le Christ est le premier communiste, c'est des choses qui sont connues, qu'on trouve chez tout le monde. Mais alors, Cabet, lui, personnellement, il naît à Dijon, il naît un 1er janvier. Il naît le 1er janvier 1788, donc sous la Révolution française, dont il a peu de souvenirs vécus, hein, bien évidemment. Donc une famille qui n'est pas politisée plus que ça, son père est artisan tonnelier. On essaye de l'intéresser un peu au métier, mais visiblement, c'est pas son truc. Et il est envoyé dans l'école de Dijon, où il est repéré comme étant un lecteur boulimique. Et à 14 ans, il est même tellement brillant dans ses études que le directeur de l'école le prend comme assistant. Et c'est lui qui va lui donner ses premières lectures philosophiques, dont le Télémaque de Fénelon, le premier tableau d'une communauté, une société sans argent, sans propriétaire... et qui inspirera en partie le voyage en Icarie. Donc il continue son cursus, il étudie le droit, il passe sa licence en droit en 1810, il passe son doctorat en 1812, il s'inscrit au barreau dijonnais, et à la fin de l'Empire, il s'enrôle dans la garde nationale. Il est évidemment indigné par la restauration monarchique, il est enthousiasmé par les 100 jours, et d'emblée, déjà, il va passer devant le conseil de l'ordre de Dijon des avocats, qui va l'interdire de sa profession d'avocat, en 1815, alors avec un motif qui est extraordinaire, je l'ai retrouvé là en préparant mon truc, il a arboré le signe de la révolte contre l'autorité légitime dans un temps où le souverain donnait encore des lois à la France, et il a inculqué des principes subversifs de la morale publique. C'est le reproche habituel qu'on fait à tous les... On les appelle pas encore révolutionnaires, mais tous ceux qui vont le devenir en tout cas. Donc il interdit pour 3 mois de sa profession d'avocat, ça ne le calme pas davantage, puisque une fois sa peine effectuée, il va prendre la défense systématiquement de tous les libéraux traqués par la police. Il va s'en faire une spécialité. Il va être identifié comme ça. Le terme libéral s'entendant comme au XIXe siècle et pas comme Emmanuel Macron. Hein. Surtout libéral, au sens où quand on est libéral, on n'est pas monarchiste. Libéral, il faut l'entendre dans le sens, c'est les opposants. Et il réussit dans son métier d'avocat, au point qu'il se met à dos à peu près l'ensemble de la magistrature. Enfin, la magistrature monarchiste, évidemment. qu'il réussit même tellement bien qu'on ne le suspend pas de 3 mois, mais d'un an. Et là, c'est quand même plus embêtant quand on est privé d'exercice de sa profession pendant un an. Donc il monte à Paris. Et à Paris, il va trouver un emploi auprès d'un secrétaire, d'un avocat à la Cour de cassation. Et c'est dans la capitale, à ce moment-là, qu'il va, en 1815, hein, c'est là qu'il va rencontrer ce qu'on appelle les idéologues, ceux qui sont opposés à la restauration monarchique. Et il va très vite se lier avec eux, et c'est eux qui vont lui faire connaître la deuxième vague de ces grandes lectures communautaires, qui sont notamment les œuvres de Gracchus Babeuf et de Thomas More, bien plus anciens. Comme beaucoup de révolutionnaires de l'époque, Cabet va se rallier à la charbonnerie, il sera Carbonaro, association clandestine qui s'est donnée pour but le renversement des Bourbons par tous les moyens. Entre-temps, il va quitter le barreau, parce que c'est quand même trop difficile chaque fois de recommencer dans une affaire et de se faire interdire. Donc il va quand même avoir une activité juridique, puisqu'il va créer un établissement de consultation juridique, et il va même pendant un temps diriger le recueil de jurisprudence d'Alloz. Parce qu'en plus d'être excité, c'est quand même un bon juriste. Voilà, ça, il cumule. Le grand tournant dans sa vie politique, c'est l'année 1830. Ce qui a été formateur dans la pensée de cette génération, c'est les révolutions de 1830 et 1848. Songez que naître en 1780, il va mourir en 1856. Cette génération va connaître deux empires, deux restaurations, deux républiques. C'est quand même assez tourmenté. Donc l'année 1830, ça marque un tournant. Évidemment qu'Abbé y participe, il est un des premiers à s'élancer là-dedans, et il va militer pour l'établissement immédiat de la République. L'unité pour la République, c'est demander la convocation d'une constituante élue au suffrage universel. Il va même écrire à Louis-Philippe, et ensuite à Charles X, enfin, il va écrire à tous les rois qui vont succéder. Donc, il est prêt à accepter même une monarchie républicaine s'il y a une assemblée constituante et l'instauration du suffrage universel. Dans ce cas-là, ça voudra dire que la monarchie a été voulue par le peuple. Or, quand on est démocrate, on est supposé se plier à la loi de la majorité. Il réutilisera cet argument-là, d'ailleurs, dans son voyage en Icarie. Mais la royauté est restaurée sans qu'on l'écoute beaucoup, lui et les autres. Et on décide de s'en débarrasser. Jean l'envoie encore, en disant ça va sûrement le calmer, puis en tout cas, lui, il va être loin. Ça. Il est nommé procureur à Bastia, et ça ne l'a pas calmé vraiment, hein, puisque il est nommé le 15 octobre 1830, il est révoqué le 9 mai 1831. Pour avoir affiché ses sympathies républicaines lors d'un banquet et avoir mené campagne contre les monarchistes. Donc là, il passe à l'opposition déclarée, et c'est là qu'il se lance dans la carrière politique personnelle, et pas simplement dans la vie administrative ou bien professionnelle. Il retourne en France, à Dijon, il n'est plus avocat, donc il n'a pas de raison d'être interdit. Il se fait élire député de la Côte d'Or, et il va défendre les positions de la gauche démocratique. Ça pourrait le faire rentrer dans le rang, cette histoire-là. Or, ça ne va pas être le cas, puisqu'il poursuit une activité militante assez intense, au point où, pour s'en débarrasser, il est l'un de ses députés contre lequel on va monter un complot, notamment lors des funérailles du général Lamarque en 1832, et des émeutes qui ont lieu, et on dit, ben voilà, c'est ces gens-là. Hein, c'est Cabet, c'est Raspail, c'est... Il se défend lui-même. Il arrive à obtenir un non-lieu. Pour lui et pour ses co-inculpés. Il a à subir un autre procès pour avoir écrit. Il disait qu'il n'arrête pas d'écrire en permanence. Il a écrit un bouquin qui s'appelle 1830 et situation présente. Et on lui fait un procès pour offense à la personne du roi et au principe monarchique. Là, il est condamné à 5 ans de prison, 5 ans de privation de ses droits civiques et 10 000 francs d'amende. Il fait appel, il se défend là encore, il est acquitté en 1833. Et ça le calme toujours pas. Alors ça serait une particularité. Jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui, plus il sera sanctionné, plus il ira devant les tribunaux, plus ça va le doper. Hein. Il monte tout un tas d'associations. L'association pour l'éducation du peuple, l'association pour la liberté de la presse patriote. Il fonde son propre journal, qui s'appelle Le Populaire, journal des intérêts politiques, matériels et moraux du peuple. Il est poursuivi pour 2 articles. C'est jugé offensant envers la personne du roi, le principe monarchique. Condamné à 2 ans de prison, on suspend le journal, il arrive à une commutation de peine en 5 ans d'exil. On se dit, on va être débarrassé quand même d'un personnage un peu encombrant, qui part en exil à Londres. Et c'est là qu'il va y rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie, qui est Robert Owen. Robert Owen, c'est un des fondateurs des premières communautés, on va dire communistes, même si le mot n'est pas encore utilisé. Les cités-jardins, entre autres. Voilà. Et il rencontre Cabet, et c'est un coup de foudre intellectuel entre les deux hommes. Au bout de ses 5 ans d'exil, il revient. La première chose qu'il s'empresse de faire, c'est de refonder un deuxième journal, qui là est spécialement consacré à la défense de l'immense classe ouvrière et à la propagation des principes les plus avancés de la démocratie. On est en 1839, donc là aussi, ça passe assez mal. Et c'est là, donc, qu'il va créer, en 1841, dans une brochure, il appelle à la création d'un parti communiste français. C'est anecdotique. C'est la première fois que le terme apparaît. 1841. Et pour ça, il va publier près de 55 brochures en quelques années. Et il organise les premiers réseaux de propagande et de communication dans toute la France. On crée des réseaux dans les villes. C'est assez étonnant, c'est la constitution d'un parti politique moderne. Et au point même que dès qu'il y aura un problème, une grève, un attentat, n'importe quoi, il y a deux coupables possibles, c'est soit les anarchistes, soit les icariens. 1840, je vous ai c'est le voyage en Icarie. 1846, il publie l'autre grand ouvrage, Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ. C'est très daté, pour le coup. Autant le voyage en Icarie, c'est très stimulant, autant c'est une œuvre de confortation. Et l'appel de partir en Icarie date de 1847. Il lance un appel, allons en Icarie. Et là, il propose partir installer une colonie icarienne au Texas. C'est une vraie rupture. Je vous ai dit, la première rupture, c'est 1830. La deuxième, c'est 1847. 1847, on lance cet appel. Et toute l'activité politique qu'il va déployer, ça va être tendu vers ce seul objectif-là. Lui, il part pas tout de suite, parce qu'il y a la révolution de 48, il manque de se faire élire, il est hésitant, il ne sait pas si ça va marcher de partir là-bas. Peut-être même qu'il n'en est pas complètement convaincu. Il n'est pas élu en 48. Par contre, il a suscité un grand appel, et les gens partent pour l'Icarie. Cabel, lui, essaye deux fois de se faire élire, ça marche pas bien. Il part en janvier 49, il est obligé de revenir parce qu'il est accusé de, je sais pas, l'histoire d'escroquerie. Il cumule les procès, hein, c'est... Lui, il cumule pas les fonctions, mais il cumule les procès. Finalement, il est acquitté, on est en 49, en 1851, il y a le coup d'État de Napoléon Bonaparte, qui fonde un autre journal. Évidemment, ça lui vaut un procès, puisque là, c'est plus offensant envers la personne royale, mais c'est offensant envers le Nouvel Empire. Il est enfermé à Bicêtre, il est vieux. Et finalement, on lui donne la possibilité de partir, à la condition, mais vraiment qu'il dégage définitivement. Donc il part pour les États-Unis, il va rejoindre sa communauté. Il ne reviendra plus en France. Et c'est là-bas qu'il va mourir en 1856, après avoir vu l'effondrement total de la communauté icarienne, en tout cas de la première. On verra pourquoi dans un instant. Donc, en gros, on est en face de quelqu'un qui se dit l'héritier de la Révolution française, qui va former un cours de doctrine extrêmement offensif, extrêmement construit. Ils sont tous comme ça à l'époque. Hein. En même temps, ce qu'on peut dire, bon, ça mène à l'échec. On ne s'abstrait pas comme ça de la société pour construire un monde à part. C'est le vice majeur de ça. Hein. Et puis, il y a une autre raison, c'est que le communisme de Cabet, tel qu'il l'entend, c'est un communisme qui est beaucoup plus sentimental, beaucoup plus affectif, beaucoup plus politique. C'est parce qu'on est égalitaire, c'est parce qu'on est démocrate. Il n'y a pas un mot sur l'économie, ou très peu. Très peu. On verra que l'Icarie, c'est un communisme industriel, mais ce n'est pas sa tasse de thé. Ça peut commencer n'importe où et n'importe quand. L'Icarie, c'est presque un livre de recettes. Avec cet autre aspect qui va peut-être un peu désarçonner le monde ouvrier, c'est qu'il a une formule, Cabet, c'est « faut jamais utiliser la révolution ». La révolution, c'est toujours des effroyables misères. Et il a une formule assez prémonitoire en disant « si jamais je tenais une révolution fermée dans ma main, je n'ouvrirais pas le poing ». Tout ça mis bout à bout fait que ça marche pas. Ça aurait peut-être pas forcément mieux marché, mais en tout cas, le jugement qu'on peut porter et que portent ses collègues sur Cabet, quand je dis ses collègues, c'est ceux qui militent avec lui. Hein. C'est Marx, par exemple, lui reproche de déserter la lutte en partant. Donc, c'est pas la peine de partir là-bas, ça marchera pas, alors que c'est ici que ça se passe. Donc il y a à la fois ça, Blanqui lui en veut à mort, les rêveries de pacotille, tout ça, c'est ici que ça doit se passer. Et en même temps, il y a beaucoup d'estime, disant, même s'il déserte, même s'il s'en va, même si c'est une erreur, il a quand même donné de l'espoir à tout un tas de gens qui étaient exploités, et puis il a structuré quelque chose. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on parle de Cabet. L'intérêt, en fait, c'est que ça, il y a eu une expérience pratiquée de l'Icarie. Et je disais, la dernière en date date de 1895. Pour avoir été en contact avec des descendants de la communauté icarienne, quand on leur parle de démocratie, quand on leur parle d'égalité sociale, quand on leur parle de communisme, alors le mot leur paraît un peu bizarre, mais ils ont grandi avec ça, ils ont ça dans leurs ascendances. Quand Cabet publie en 1840 le voyage en Icarie, c'est l'instauration d'un communisme en sachant que, je répète encore une fois, le titre de l'ouvrage c'est « Le démocrate devenu communiste ». malgré lui. Alors, je vous disais, le mot qu'il y a à retenir, dans un premier temps, c'est le mot égalité. Pour apprendre les choses dans l'autre sens, Cabel l'écrit de façon très claire, l'inégalité est l'inévitable conséquence de trois vices radicaux, l'inégalité de fortune, la propriété, la monnaie. Comment ça se forme, sa pensée ? Ça se forme d'abord par une référence constante à la Révolution française, dont il n'a jamais cessé d'affirmer que la Révolution française était juste et généreuse, aussi bien celle de 89 que les conséquences. Il entend par Révolution française celle qui commence en 1789 et celle qui va finir avec la chute de Napoléon, 1814-1815. C'est-à-dire que c'est l'ensemble. Clémenceau dira pas autre chose en disant que la Révolution c'est un bloc. Et en précisant, l'argument qu'il utilisera souvent quand il ferraille avec des opposants, c'est-à-dire à partir de 1791 jusqu'en 1815, la France est en guerre. La Révolution française, c'est la guerre de la France contre l'Europe coalisée. Donc c'est nécessairement un processus violent. Qu'est-ce qu'il tire de la Révolution française ? Il tire deux choses. Il tire l'idée de l'égalité, il va tirer l'idée de la souveraineté de la loi. Et ça, c'est ce qui va structurer le voyage en Icarie. Le développement sur l'égalité. Alors ça, c'est l'apport majeur des utopistes au XIXe siècle. Si on faisait une histoire rapide des choses, l'égalité, elle est naturelle au XVIIIe siècle. C'est le combat des encyclopédistes contre les privilèges, contre la monarchie, contre l'ancien régime. Il suffit de lire Diderot, il suffit de lire Montesquieu, de lire Rousseau, de lire les auteurs de l'encyclopédie. Il n'y a pas que eux sont les stars. L'égalité est naturelle. En tout cas, il y a un droit naturel à ce que les hommes soient égaux. Très bien, mais on peut très bien s'accommoder d'une égalité naturelle et d'un régime monarchiste. C'est aux révolutionnaires français qui vont hériter de ça, à la fin du XVIIIe siècle, de mettre ça en forme. C'est ce qui se passera, d'ailleurs. La revendication sera de dire on passe pas à une égalité naturelle. L'égalité naturelle, elle existe. Ce qu'il nous faut, c'est l'égalité politique. C'est énorme de dire ça, déjà. Et la Révolution française, ce qu'elle amène, c'est l'égalité politique. C'est le droit de suffrage. Sur le principe qu'on pourrait dire un homme, une voix. Si on faisait juste un bond jusqu'à aujourd'hui, on vit dans un système où on a l'égalité politique. Y compris même depuis 1945, les femmes ont le droit de voter, donc on a l'égalité politique, ça n'empêche pas le développement des inégalités. Donc ça suffit pas, l'égalité politique. Il y a bien une progression, on passe de l'égalité naturelle à l'égalité politique, de l'égalité politique à autre chose qu'à l'égalité sociale. On va se déterminer non pas par la forme, mais par le contenu. C'est-à-dire que les individus, parce qu'ils existent, ont des besoins, c'est la satisfaction des besoins, une répartition égalitaire de la production des biens matériels ou de la richesse. Voilà. L'intérêt, la force, le moteur de Cabet, c'est de dire que le but, c'est l'égalité sociale. La revendication de l'égalité politique, c'est un moyen. Il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, il va le formuler en termes qui peuvent paraître un peu étranges aujourd'hui. Il va nous dire, on est réformiste d'abord. On veut d'abord la réforme politique, parlementaire, électorale, pour ensuite réaliser la réforme sociale. Ça, c'est typique de la pensée du XIXe siècle. Les seuls qui sont en rupture avec ça sont des gens comme Blanqui, par exemple. Dira, c'est pas comme ça qu'on prend les choses dans l'autre sens. Ou Marx dira, faut pas s'intéresser simplement à la légitimité des parlements ou au droit de suffrage, faut partir de la revendication sociale pour être révolutionnaire. À l'époque, c'est pas perçu comme ça. La revendication de l'égalité politique est le moteur vers l'égalité sociale. Ça va permettre de corriger les inégalités, puisque l'inégalité, c'est le produit d'une organisation irrationnelle de l'État. Donc si elle est irrationnelle, elle est antinaturelle. Donc il y a une continuité entre l'égalité naturelle, l'égalité politique et l'égalité sociale. C'est Cabet qui parle. Dire « je veux une réforme sociale », c'est dire « je veux d'abord une réforme politique pour arriver ensuite à la réforme sociale ». De même que dire « je veux une réforme politique », c'est dire « je veux une réforme politique pour arriver à la réforme sociale ». La réforme sociale, c'est le but, la réforme politique, c'est le moyen, c'est l'instrument qui va faire atteindre le but. Alors pour autant, ça ne fait pas de Cabet un précurseur des luttes sociales. Il y a des mouvements sociaux dans ces époques-là. C'est pour ça qu'il va forcément le motiver plus, il est plus accaparé par la construction de son utopie. Et surtout, le défaut majeur de cette réflexion, mais c'est facile à dire rétrospectivement, et puis pour nous, c'est qu'il a complètement passé sous silence l'exploitation économique. Cabet est un des correspondants de Marx et d'Engels en France. Et si on prend par exemple le communisme marxiste tel qu'il essaye d'être défini, notamment de façon simple d'ailleurs à travers le manifeste de 48, le communisme marxiste s'appuie sur le primat de l'économique, et c'est l'évolution des structures économiques qui va entraîner l'évolution des structures sociales. Le communisme icarien, c'est exactement l'inverse. Il faut d'abord travailler sur les structures sociales et ensuite on verra sur l'économie. Qu'Abed d'ailleurs dit ben, les générations d'après, ils verront plus clair que nous. C'est dire le peu d'intérêt qu'ils portent au sujet. C'est-à-dire que là où le socialisme, sous sa forme marxiste ou plus contestataire, va se faire révolutionnaire, ben, Qu'Abed sera réformiste. Il le dit d'ailleurs comme ça lui-même. Hein. En même temps, à l'époque, c'est peu perceptible ce genre de choses-là. Parce que fondamentalement, quand il dit on veut une réforme politique pour obtenir une réforme sociale, il a parfaitement raison. Après, c'est la méthode qui peut être contestable. Donc, il n'y a pas d'opposition factice entre les courants socialistes sur ce plan-là. Il y a simplement, quand on regarde ce que ça a donné dans l'histoire, son échec est inscrit déjà dans cette perspective-là, dans la formulation. Mais il ne peut pas le savoir, les autres ne peuvent que le deviner. Le premier moteur de Qu'Abed, c'est l'égalité. Le deuxième, c'est la souveraineté de la loi. Alors ça, la souveraineté de la loi, c'est extrêmement simple. Enfin, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, mais c'est extrêmement simple. La loi, c'est le produit de la volonté générale. C'est au peuple souverain qu'il appartient de faire les lois. Il doit rédiger son contrat social, sa constitution et ses lois. Alors évidemment, il y a un tir de barrage contre ça. C'est le reproche qu'on adresse déjà à Rousseau dans le contrat social. En fait, s'il y a 100 personnes, chacun détient une centième partie de la souveraineté. Donc la loi, c'est l'expression de la volonté générale, donc c'est la moitié plus une. Le problème que ça pose, c'est si on vote une mauvaise loi. Alors Rousseau s'en tire par une pirouette, hein, en disant c'est pas possible, la majorité peut pas nuire à son propre intérêt. La minorité a toujours politiquement tort parce qu'elle est juridiquement minoritaire. Ça, c'est ce qu'on retrouvera en Icarie. La loi est l'expression de la volonté générale. Qu'Abeille introduit une nuance quand même. Alors, oui, bien sûr, on peut se tromper. Bon, c'est moins grave quand même que les vices qui sont causés par la propriété, la monnaie et les inégalités de fortune. Et puis généralement, on se trompe pas. Voilà, c'est comme ça que c'est réglé. Cette question-là, alors en fait, elle est posée déjà avec Rousseau par le contrat social, elle est posée y compris par les révolutionnaires français, la constituante, la convention de 93, c'est exactement le problème qui se pose, elle est posée par la conspiration des égaux de Babeuf, elle est posée par les révolutionnaires de 1830, 1840, elle est aussi posée aujourd'hui, hein, de la même façon. Oui. Le débat autour de la proportionnelle, autour de l'instauration de qui doit voter, des rapports entre les commissions, entre les parlements nationaux, les parlements européens, enfin, avec un autre environnement, c'est exactement le terme des débats politiques d'aujourd'hui. Donc, je vous disais tout à l'heure que moi, le sujet m'avait été conseillé par mon prof qui était membre de l'Action française. Il avait une idée en tête qui n'était pas idiote. En plus, il disait c'est quand même très étrange, on va reprocher à Qu'Abed un ensemble de choses. Donc, vous verrez que les critiques qui lui sont faites sont extrêmement virulentes. En fait, on lui reproche la même chose que ce qu'on va reprocher aux communistes staliniens. C'est compliqué de traiter quelqu'un de stalinien en 1830, quand même. Et j'avais mon directeur de recherche qui me disait « Mais c'est simplement parce que la pensée égalitaire est une pensée totalitaire. » C'est toujours très pertinent, ça, comme remarque. Et c'est toujours un reproche qui va partir d'un certain degré. L'égalité emporte la totalité. Sous la Révolution française, c'est ça. Hein. Il y a des conventionnels, les Girondins par exemple, qui disent « si vous faites un pas de plus dans la contestation de la propriété, vous débouchez sur un système totalitaire ». Donc l'idée égalitaire, elle est par ses adversaires combattue sur ce terrain-là. Donc Qu'Abed hérite de la pensée de Rousseau, et il va hériter, et c'est pour lui une chance d'être né en 1788, parce qu'il y a eu des gens qui sont nés avant lui, il hérite également de la pratique robespierriste. C'est l'application, je dis, de la Révolution française, du suffrage universel. Il n'y a pas que le suffrage universel sous la pensée robespierriste, mais... Donc, d'un côté, la souveraineté de la loi, et en arrière-fond, l'égalité. Comment ça se passe en 1830, avec la restauration monarchique? Ben, il applique ces principes-là à la contestation du régime. Et il y a trois idées qui vont animer le système qui est mis en place par les restaurateurs, par les monarchistes. C'est l'idée de la souveraineté royale, c'est l'idée de la monarchie limitée. Alors ça, on dit trop rien, parce que ça va être le début du parlementarisme, on ne sait pas trop, mais c'est l'idée de la continuité monarchique, donc ça, il n'en est pas question. Donc, 1830, c'est aussi la restauration du pouvoir monarchique, mais quand bien même on voudrait effacer le souvenir révolutionnaire, on ne peut pas. Donc on essaye de transiger, mais là, pour Qu'Abed, c'est impossible. Ça, c'est Louis XVIII, avec Charles X, et les fameuses ordonnances de Polignac qui suspendent l'ensemble des libertés publiques et de la presse. Donc là, c'est ce qui va déclencher d'ailleurs les émeutes des 27, 28, 29 juillet en 1830, qui sont particulières d'ailleurs, parce qu'on va voir des gens qui sont privés du droit de vote qui vont défendre des députés qu'ils n'ont pas élus. Hein. C'est quand même particulier. Donc là, Qu'Abed, évidemment, se lance à fond dans ce système-là. Et c'est ce qui va sceller de façon définitive. On est en 1830, on n'est pas encore dans la rédaction du Voyage en Icarie. Hein. C'est ce qui va sceller de façon définitive son ralliement à la République, en considérant que la révolution de 1830, elle a été captée elle a été détournée de son sens par le pouvoir monarchique. Alors, il y a quand même un problème dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que, oui, la royauté, il la reconnaît bien comme un fait majoritaire. Et il y a un problème quand même, hein, quand on est démocrate, quand on est égalitaire, quand on n'est pas encore communiste, mais pas loin. Quebec postule, comme Rousseau, l'infaillibilité de la volonté générale. Donc, la monarchie, si elle est voulue par tout le monde, ça veut dire que le peuple qui a voté a pu se tromper. C'est pas possible, parce que c'est un suffrage universel. C'est donc, ça suffit pas. Eh bien, on va s'orienter vers autre chose qu'une égalité politique. Le problème ne se poserait pas si, face aux monarchistes, on était des défenseurs de l'égalité sociale. Donc, je vous disais, c'est l'époque, là, c'est là où on se débarrasse de lui parce qu'il accumule procès sur procès et qu'il obtient non-lieu sur non-lieu et qu'il n'arrête pas de défendre les républicains et les libéraux. C'est là qu'il est envoyé en Corse en 1830. Je disais, il a été éjecté de Corse pour afficher ses sympathies dans des banquets républicains et dans des campagnes républicaines. C'est quelqu'un que rien n'arrête. Il est en Corse, il écrit au roi. Il arrive à obtenir le rétablissement du jury d'assises en Corse, alors que la monarchie n'en voulait pas. Donc il considère que la révolution de 1830, c'est un escamotage, c'est une trahison. Il demande d'ailleurs au roi de réinstaurer, dans le cadre de la monarchie, un pouvoir républicain. Donc là, il n'a même pas le temps de démissionner, il est immédiatement révoqué. Et c'est là donc qu'on lui colle sur le dos les émeutes du funérail du général Lamarque. C'est là qu'il obtient un non-lieu. Tout ça va se solder à la suite par la série d'articles dont je vous parlais tout à l'heure, dans les journaux successifs, qui l'amènent devant les tribunaux systématiquement. Les deux titres, par exemple, pour lesquels il va partir en exil, c'est « La République est dans la chambre ». Dire ça dans une assemblée de monarchistes, ça passe assez mal. Et surtout, il écrit un article assez long qui s'appelle « Crime des rois contre l'humanité » en 1834. Donc cette fois-ci, il est condamné à 4 ans d'interdiction politique, 2 ans d'emprisonnement. C'est là où il accepte de faire commuer sa peine et de partir en exil, parce que sinon c'est l'ensemble du Parti républicain qui est décapité. C'est ça, l'héritage de la Révolution française. C'est pendant son bannissement à Londres, donc je vous dis, qu'il rencontre Owen, et puis qu'il va travailler toutes ces notions-là, parce que ça le travaille en permanence, et puis parce que c'est un politique important. Et c'est là qu'il va rédiger son utopie, qu'il va rédiger le voyage en Icarie. C'est pas avec l'idée de partir, c'est de voir est-ce que ça peut théoriquement fonctionner, l'ensemble des concepts. Alors pour ça, évidemment, il y a sa propre expérience, et puis il y a la connaissance qu'il a et les lectures qu'il fait des différents auteurs. C'est une époque extrêmement riche, hein, cette période-là, la première partie du 19e siècle. Il y a deux grandes périodes dans l'histoire de France où il y a la totalité des idées politiques représentées, c'est le 19e siècle, et puis c'est la première partie du 16e siècle, ce qui va déclencher les guerres de religion. On a un panorama complet. Donc c'est quoi les sources du voyage en Icarie? Qu'est-ce qu'il lit pour s'inspirer? Il n'écrit pas 600 pages comme ça d'un texte globalement imbuvable. C'est un traité de sciences politiques, c'est un traité juridique, l'argumentaire du voyage en Icarie, donc ce jeune noble anglais qui part sur un bateau, qui arrive sur une île, qui tombe amoureux d'une Icarienne. Ah, il n'en peut plus, il décide, et puis elle le prend par la main, et puis elle lui fait tout visiter, les assemblées, les communes, les services publics, tout. Bon, il est meilleur politique qu'écrivain. Hein. Il a dans tête déjà deux utopies préexistantes, qui jouent un rôle fondamental. C'est l'utopie de Thomas More, publiée en 1516. Et la deuxième, c'est la Cité du Soleil, de Campanella, qui elle est publiée en 1602. Alors si on prend le premier, Thomas More, qu'est-ce qui va nourrir sa réflexion? Thomas More, pour le coup, il ne parle pas de communisme, il n'utilise pas le terme, mais c'est le premier auteur qui envisage une communauté généralisée qui est fondée sur la suppression du droit de propriété et sur la mise en pratique du principe égalitaire. C'est tiré de l'utopie, 1516, hein, début du XVIe siècle. Le seul moyen d'organiser le bonheur public, c'est l'application du principe de l'égalité. Elle, c'est pas le principe de la loi, c'est l'égalité comme l'égalité sociale. On continue Thomas More. Or, l'égalité est, je crois, impossible dans un état où la possession est solitaire et absolue. Car chacun s'y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu'il peut. Et la richesse nationale, quelque grande qu'elle soit, finit par tomber dans la possession d'un petit nombre d'individus qui ne laissent aux autres qu'indigence et misère. On dirait déjà ce qu'écrira Blanqui, hein. Les deux classes. Il pense que l'unique moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice, et de constituer le bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la propriété. Tant que le droit de propriété sera le fondement de l'édifice social, la classe la plus nombreuse et la plus estimable n'aura en partage que disette, tourment et désespoir. 1516. C'est pas étonnant qu'on l'ait exécuté. L'important, c'est que Thomas More lie la revendication égalitaire à une analyse de la situation économique. Quand il parle de la possession de la terre, la richesse est faite sur le dos des plus pauvres. Mais Victor Hugo dira pas autre chose en disant que le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres. Hein. C'est la même formule. Alors je vous disais que Cabet n'utilise pas l'argument économique. Il n'utilise pas l'argument économique comme structure de la société, mais il est bien obligé de l'aborder quand on va parler de la répartition des biens matériels. Et c'est ça qui va tirer de l'utopie. C'est qu'en utopie, toute répartition inégalitaire des biens matériels, si elle est inégalitaire, il ne faut pas l'appliquer. Chaque individu est en droit de disposer des biens pour vivre du seul fait de son appartenance au corps social. Donc il lit ça, il a ça en tête. Il a en tête la formule de Robespierre, le premier droit c'est celui d'exister. Voilà, la source, elle est claire. Hein. Et Thomas More fournit à Cabet une armature théorique, intellectuelle, mais pas qu'à lui. En gros, à tout le courant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Donc il va transposer ça. Il y a des différences, évidemment. Le communisme de Thomas More est un communisme agraire, rural. Cabet introduit évidemment le machinisme, et puis le développement de l'industrie, mais c'est simplement lié à l'époque. Hein. Et puis après, on pourrait rentrer dans le détail. Thomas More prévoit une journée de travail de 6 à 7 heures. Cabet n'est pas d'accord, ça peut être que 6h30. Enfin, on est dans des trucs que personne n'aura jamais l'occasion de vérifier. Mais deuxième source principale, en tout cas celle qui lui est directement accessible, c'est celle de Tommaso Campanella. Alors Campanella, c'est donc un peu après, c'est un dominicain calabrais, Campanella, qui lui aussi rédige La Cité du Soleil. L'utopie de Campanella, lui en 1602. Lui, c'est pas l'économie qui va l'intéresser, c'est la religion. C'est un dominicain, hein, donc. Alors, les solariens, donc ceux qui vivent en utopie sont les utopiens, ceux qui vivent dans la cité de soleil sont les solariens. Les solariens, eux, vivent aussi un régime politique qui est communiste et égalitaire, où la propriété privée est abolie et l'organisation sociale, c'est un collectivisme de répartition des richesses. Et le principe, c'est tout appartient à tous, et chacun a le droit de se servir en fonction de ses besoins. C'est plus au nom d'une condamnation de l'égoïsme, c'est plus une condamnation d'ordre moral. Et la propriété, elle est condamnée à cause de ça, quoi. Si on est propriétaire, ça crée un dysfonctionnement dans la société, et ce dysfonctionnement, il est immoral. Pour Thomas More, le dysfonctionnement qu'a trouvé la propriété, il n'est pas immoral, il est injuste. C'est plus politique, chez More. Hein. Mais on retrouve également chez Campanella la même chose, c'est-à-dire que le pouvoir politique légitimé par la volonté majoritaire. Quand Cabet est en exil à Londres, il a sa propre expérience de parlementaire, de persécuté, de procès, il a sa propre réflexion sur l'égalité, il a ses lectures sur Thomas More. Mais l'argument qu'il va surtout réutiliser avec beaucoup d'adresse dans La Cité du Soleil, c'est le lien qu'il y a entre l'établissement du communisme et la pratique de la religion chrétienne. Pour Campanella, il n'y a pas de doute. Le communisme est quasiment une vision théologique des choses. Donc la voie est ouverte avec Campanella pour Cabet comme pour d'autres, pour dire que la religion sera la forme, sera une des formes que peut prendre la pensée socialiste d'une part ou communiste d'autre part, en tout cas la pensée égalitaire. Et que la répartition des richesses en fonction des besoins, c'est finalement conforme à l'enseignement des évangiles. Tous les auteurs, à part les... Je pense à part Blanqui, pour qui une relation plus éloignée avec la religion. Donc l'utopie, la Cité du Soleil. C'est les deux grandes utopies. Il y en a d'autres, et je vous donne ça rapidement. C'est tout le courant que les historiens, par la suite, ont appelé le courant communiste au XVIIIe siècle. C'est une invention d'historiens, parce qu'ils ne se sont jamais considérés comme communistes, ces gens-là. On y a presque vu la création d'une école. Il y a trois noms là qu'il faut avoir en tête, et que Cabet... va découvrir, en tout cas va faire plus que découvrir, qui va admirer, c'est Mably Morelli, et puis évidemment je dirai un mot sur l'influence de Babeuf. Quand il est né, Babeuf était encore vivant. Hein. Donc Mably c'est un abbé lui aussi, Gabriel Bonneau de Mably, qui est né en 1709-1785, donc il ne connaît pas la Révolution française, mais qui critique l'inégalité des conditions, donc ça pour Cabet c'est très bien. L'inégalité, ça lui parle, c'est Mably, hop, il est embarqué avec lui. Et l'inégalité, c'est jugé contraire aux lois de nature. Ça tombe très bien. La correction de l'inégalité ne peut se faire uniquement que par l'établissement de la communauté des biens pour faire régner le bonheur et la vertu. Et Je vous disais tout à l'heure que quand Cabet écrit à Louis Philippe, il lui demande l'instauration d'une monarchie républicaine. En fait, c'est bien. Mably propose le terme l'instauration d'une monarchie républicaine. C'est une conversation intéressante, celle de Mably. C'est un esprit original, on va dire. Ça débouche sur rien, sur un espèce d'excentrique comme ça, qui passe pour excentrique d'ailleurs. Quand on le relit, c'est moins excentrique qu'il y paraît, mais ça reste en tout cas très isolé. Le deuxième, à peu près à la même époque, c'est Morelli. M-O-R-E-2-L-Y. C'est un auteur plus politique, plus politisé en tout cas. Il va rédiger plusieurs ouvrages, dont l'un est passé à la postérité sous le titre du Code de la Nature. Et le Code de la Nature, c'est l'idée d'une société communiste fondée sur la raison. Alors là aussi, pour Cabet, ça lui parle. L'héritier du XVIIIe siècle, de la Révolution française, de la raison. Qu'est-ce que dit Morelli ? C'est l'abolition de la propriété privée est souhaitée parce qu'elle corrompt la nature humaine. On a un réquisitoire implacable qui est dressé contre le droit de propriété et les inégalités qu'il engendre. De Thomas More à Campanella, à Mably, à Morelli. Et ce que propose Morelli, c'est 1. L'abolition de la propriété privée. 2. Un système d'assistance nationale et de coopération, système de sécurité sociale. On est en 1755. C'est ce que feront d'ailleurs les révolutionnaires de 1789, 90, 91. C'est la source majeure revendiquée par les fourriéristes, ce système d'assistance et de mutualisation. Voilà, c'est les deux grands auteurs du XVIIIe siècle. Le dernier au XVIIIe siècle, c'est Babeuf. Cabet a un vrai problème avec Babeuf. C'est qu'il lui en veut énormément d'avoir inspiré avant lui exactement les mêmes idées. Si on lit La conspiration des égaux, tout ce que je vous ai dit sur la gradation entre l'égalité naturelle, l'égalité politique, l'égalité sociale, entre la souveraineté de la loi, entre l'abolition de la propriété, la prise en compte des besoins, tout ça, c'est ce qui structure le projet de Babeuf. Qui va même d'ailleurs jusqu'à dire que ce qu'il faut, c'est ce qu'il appelle l'égalité réelle. En disant que tout doit plier devant ça. Même quand on lui reprochera d'avoir un système qui est terne, qui est clos, qui est fermé, qui est... La formule des Babouvis, c'est pas Babouf tout seul, c'est périssent s'il le faut tous les arts pourvu qu'il reste l'égalité réelle. Voilà, l'égalité prime l'ensemble. Cabet est assez embêté parce que s'il reprend exactement la même chose, le voyage en Icarie va être assez terne. Babouf l'a fait bien mieux. Donc il va le prendre sous un autre angle. Il n'y a pas un mot qui va dire sur Babouf où il n'y a pas une réserve. Et en même temps une admiration. C'est extraordinaire, mais quand même, il est tombé à côté de la plaque. En gros, c'est ça. L'essentiel de ce qu'il raconte sur Babeuf, c'est ça. Après, il faut trouver le reproche qu'on va lui adresser. Et le reproche qu'il va lui adresser, c'est Babeuf a eu un tort majeur pour Cabet, c'est qu'il a voulu passer en force par le coup de force insurrectionnel. Or, ça, c'est pas très démocratique. Babeuf, c'est à la fois une admiration et puis une réserve. Cabet est né trop tard. Voilà. Ça, c'est pour des auteurs anciens. Après, il entretient, comme tous les gens du XIXe siècle, des relations avec d'autres courants, avec les Saint-Simoniens, déjà. Alors, si on parle des Saint-Simoniens, pour être précis, il y a les Saint-Simoniens d'une part, mais avant, il y a le comte de Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvray, comte de Saint-Simon. On le range généralement dans le courant des socialistes utopiques, alors qu'il est peut-être pas si utopiste que ça, mais en tout cas, il n'est pas socialiste. Ce qui l'intéresse, c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est le bon fonctionnement de l'État. Or, le bon fonctionnement de l'État... c'est d'avoir des bases économiques saines. Une société, elle est faite pour produire des richesses, elle est faite pour les répartir équitablement entre tous ses membres, pas forcément sur une base égalitaire, mais équitablement entre tous ses membres, c'est ce qui va permettre de produire. Donc l'inégalité, elle est condamnée non pas parce qu'elle est immorale, ou parce qu'elle est injuste, ou parce qu'elle est intolérable, elle est surtout inefficace. C'est ça, l'idée de Saint-Simon. Évidemment, ça, Cabet va pas s'appesantir là-dessus, Les partisans d'une lutte contre l'inégalité, ça lui suffit. La fin du voyage en Icarie, c'est effrayant, De l'Antiquité jusqu'à la période qui vit, il enrôle comme partisan de la communauté des biens tout un ensemble de gens, y compris ceux qui les ont combattus d'ailleurs. Il suffit qu'il y en ait un qui dise, pardon, l'inégalité quand même, là on exagère un peu, allez hop, il est embarqué dans sa pensée. Je disais, il faut faire une distinction sur le saint-simonisme entre Saint-Simon d'une part, et puis les Saint-Simoniens, alors, c'est des gens comme le Père Enfantin, ou comme Bazar, contre lesquels Cabet va ferrailler assez facilement, on va dire, parce que l'idée égalitaire, c'est pas forcément ce qui les rassemble, et surtout très rapidement, les Saint-Simoniens vont ça va être quasiment des chapelles ou des églises. En plus, avec des choses qui sont moralement très répréhensibles. Et je pense à Bazar, par exemple, qui écrit des tas de brochures sur le communisme, c'est d'abord et avant tout la communauté des femmes. Ce que Cabet retiendrait, Saint-Simonien, c'est l'idée d'une répartition plus juste et d'efficacité économique. Il a un concurrent, Cabet, à l'époque où il écrit, c'est Charles Fourier. Les fourriéristes vont partir créer des communautés. Et alors Fourier, lui, prétend avoir découvert une science de l'organisation sociale. Et sa science de l'organisation sociale, ça dépend uniquement des passions humaines. La grande idée de Fourier, c'est la constitution de petites unités coopératives. L'économie doit fonctionner sur la base de petites unités de coopératives. Donc l'État est peut-être trop pesant. En tout cas, il doit faciliter la constitution, ce qu'il appellera par la suite le mutualisme. Comment ça fonctionne, ces mutuelles ou ces phalanstères? Ce qui est inégalitaire, c'est pas tellement le mode de production. Ce qui est inégalitaire, c'est si les gens ne peuvent pas satisfaire leurs propres besoins. Donc la meilleure façon de satisfaire leurs propres besoins dans le cadre de ces unités de production, de ces phalanstères, c'est d'avoir des bons, donc on pourrait dire des actions, des coupons d'action, des voies économiques qui sont accordées à ceux qui travaillent, qui leur permettent d'avoir un droit sur la production. Alors ça, pour Cabet, c'est intolérable, hein, parce que ça veut dire qu'au nom de l'égalité, on reconnaît la propriété. Et Fourier reconnaît la propriété. Donc c'est le point de désaccord majeur. La différence fondamentale qu'il y aura entre les phalanstères fourriéristes et puis les communautés icariennes, c'est justement l'appréhension de la notion d'égalité. Fourier considère que l'égalité doit se combiner avec la propriété, parce que c'est avec le moteur. Propriété que Cabet veut faire disparaître, puisqu'elle est la cause de tous les maux. Donc il y a bien des ressemblances, mais il y a un moment, ça va se heurter. Un autre qui écrit à l'époque, et dont Cabet est très proche, et qui se veut très proche de Cabet aussi, c'est Blanqui. Alors Blanqui, lui, il n'y a pas de problème, la propriété, oui, on peut s'en débarrasser. Ce qui va les opposer, c'est le mode de passage au socialisme, au communisme. Cabet se dit communiste malgré lui, devenu communiste parce qu'il est démocrate. C'est un discours chez Blanqui qui ne tient pas la route, quoi. Mais sur le fond, c'est exactement, à peu de choses près, le même projet. Au point même qu'en 1848, quand Cabet essaiera de se faire élire, il se fait élire avec Blanqui, enfin il essaye de se faire élire avec Blanqui, le suffrage leur sera défavorable et on reproche à Blanqui de traîner avec une espèce d'hurluberlu comme ça. Et il a une réponse à un journaliste en disant que Cabet est un homme d'un grand sens politique malgré les apparences. Tout est dans le malgré les apparences. Blanqui, ce qui l'oppose, c'est encore une fois la théorie du coup de force. Avec Proudhon, alors là avec Proudhon, donc c'est un auteur complexe, c'est un auteur à scandale, c'est un auteur des différents mémoires sur la propriété, avec la formule célèbre « la propriété, c'est le vol ». Donc c'est parfait, on va se dire bah, « pour égalité, propriété ». Et puis non. Proudhon est le premier à critiquer, et à critiquer de façon extrêmement violente, le communisme icarien. Il y voit une machine froide, il y voit un système, on dirait aujourd'hui totalitaire. Ce que Proudhon dit de Cabet, c'est que son système n'est que le dégoût du travail, l'ennui de la vie, la suppression de la pensée, la mort du moi, l'affirmation du néant. Évidemment, après, c'est compliqué de se serrer la main. Hein. Et même la démocratie que veut instaurer Cabet, Proudhon continue en disant que c'est un essai désespéré pour tenter de survivre autant qu'elle se peut l'idée totalitaire. Voilà, le mot est lâché, on dirait du Bernard-Henri Lévy. Mais Proudhon, il a un problème quand même, c'est qu'il voit bien que c'est... Alors, il y a l'idée qu'il y a Cabet, mais il y a aussi Blanqui, et puis il y a... Il n'y a pas que, il y a des gens qui contestent la propriété. Or, Proudhon va procéder à un curieux renversement dans ses analyses. Et il voit monter donc, des revendications sociales extrêmement importantes qui touchent à la structure même et à l'existence même de la propriété. Et celui qui a écrit « La propriété est-elle vol » va finir sa carrière en étant l'un des plus grands défenseurs du droit de propriété. C'est assez étonnant. Et c'est par crainte. C'est Proudhon qui écrit ce que je vais vous dire. Il ne suffit pas d'armer le travail contre la propriété, il faut armer aussi la propriété contre le communisme. Sans quoi la liberté avec la propriété périrait. Car la propriété, quant à son principe ou contenu, qui est la personnalité humaine, ne doit jamais périr. La propriété ne doit jamais périr. Il faut qu'elle reste au cœur de l'homme comme stimulant perpétuel du travail, comme l'antagonisme dont l'absence ferait tomber le travail dans l'inertie et la mort. Et il finit en fanfare, en disant il ne faut pas que la liberté périsse avec la propriété, et pour ça, il faut à la coalition des travailleurs opposer la coalition des propriétaires. Voilà. C'est Proudhon, à la fin de sa vie, ça, qui n'a pas été très très longue, mais enfin, commencer sa vie en déclarant que la propriété c'est le vol et finir comme ça, c'est une acrobatie. Donc évidemment, il y a peu de choses communes avec le communisme icarien. Sinon que la critique fondée sur l'idée que c'est une société très froide, très mécanique, très totalitaire, très oppressante finalement, c'est pas à écarter d'un revers de main. Et puis il y a tout un autre courant, il y a tout un tas d'autres courants, des gens comme Constantin Pécœur, ou Duchesse, ou Leroux, Pierre Leroux, un socialisme, un communisme, là aussi plus affectif, plus religieux souvent. Duchesse, par exemple, c'est la tentative de créer à travers le journal L'Atelier un courant socialiste et religieux. Constantin Pécœur, il naît en 1800, il meurt en 1887. Duchesse, c'est 1796, il meurt en 1865, et Leroux, 1797-1871. Ils sont contemporains. Et Buchez, par exemple, lui, c'est un esprit profondément religieux. On aura le même problème avec Lamennais. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, parce qu'ils sont religieux et parce qu'ils ont une fibre sociale très développée, vont rompre avec l'Église. Lamennais va rompre avec l'Église. Mais il va aussi, à un moment, défendre les ouvriers parce qu'il va considérer que Dieu combat à travers eux. Cabet, c'est pas son souci, hein. Si la religion, ça peut venir conforter l'idée égalitaire, on prend. Sinon, il ne rentre pas dans les querelles théologiques. Donc évidemment, l'ensemble de ces autres auteurs, il les apprécie. Il voit bien qu'il se passe quelque chose et que c'est... Ce qu'il ne sait pas encore, c'est ce que ça va donner par la suite, mais personne ne peut le savoir. Mais il ne va pas perdre de temps. Il va à l'essentiel. Il va même accuser Lamennais de mériter l'enfer parce qu'il ne veut pas s'engager aux côtés de lui. On est dans un conflit verbal assez important. Et puis l'autre contemporain qui va, c'est celui qui rencontre, je vous disais un mot tout à l'heure, c'est Robert Owen, qu'on présente comme un riche ami de l'humanité qui veut la perfection de l'ordre social humain et qui la seule solution, c'est la constitution de sociétés communautaires. Ce qui va intéresser Cabet, c'est que Owen va partir fonder ses communautés lui aussi. Il a fondé la communauté de New Harmony, qui va être un échec retentissant. Ça ne va pas désarmer les Icariens pour autant.
Évidemment, il abolit le mariage, le patriarcat, le droit sur les enfants.
Non. Il y a une idée assez répandue dans le courant communautaire, communautariste, qu'ils ont tous, hein, tous ceux que j'ai cités là, et puis d'autres à côté. L'unité de base, ça va être la famille. Et donc la famille, c'est un chef de famille, une épouse et puis des enfants. Et donc, tout va se jouer au niveau de l'égalité, elle est sociale. Dans la famille, elle est moins intéressante. On peut reconnaître à la femme mariée un certain nombre de droits, mais l'important, c'est le foyer que ça représente. Donc, si après tout, elle a des droits limités, c'est pas si grave, ça met pas en cause l'édifice social. Il n'y a pas ça chez Cabet. Chez Cabet, le problème ne se pose même pas. Il faut le mariage parce que c'est plus simple. Et puis, le mariage est souhaité en Icarie, quand on lit le texte, il est souhaité. En même temps, on peut se marier avec n'importe qui, ça n'a aucune espèce d'importance. On pourrait même se marier par tirage au sort. Puisque le but, c'est de créer une situation familiale stable, une unité de base. Cabet parle de l'individu. Ces individus doivent avoir les mêmes droits. Ils sont égaux. Donc la femme ou l'homme, ou même les enfants, c'est l'égalité sociale. Donc il n'y a même pas lieu de se poser la question de savoir si la femme mariée ou pas mariée doit avoir des droits ou pas de droits. Elle est icarienne, il est icarien. Tant mieux s'ils s'aiment, s'ils ne s'aiment pas, c'est pas grave. Le problème de l'inégalité fonctionnelle ou juridique de la femme mariée se pose à peine.
Et l'autorité parentale dans ce cas-là, ça
l'autorité, c'est le père et la mère.
C'est le père et la mère. On peut pas imaginer une société où ce soit toute la communauté qui est un minimum d'autorité.
Quand on lit Thomas More, quand on lit les autres, les enfants n'appartiennent pas à la famille. Les enfants appartiennent à la communauté. Alors, il y aura ça en Icarie, mais pas sur la vie quotidienne. Il y aura ça sur l'éducation, il y aura ça sur le logement, il y aura ça sur le vêtement, il y aura ça sur les loisirs. Mais sur les relations interpersonnelles, c'est entre citoyens égaux. Le rôle de l'État, c'est justement de réguler cet ensemble-là et de donner à chacun les mêmes droits. C'est une façon aussi de détourner un problème sur lequel les fourriéristes ou les précédents tournent autour de ça. Hein. Quand on préconise la communauté des femmes au nom de l'égalité, c'est au nom de l'égalité des hommes. La femme, elle est considérée simplement comme un bien même.
Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de l'expérience du côté de Chicago ?
J'y viens. Je ménage mes effets, bien évidemment. Le système qui se met en place une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est, et ça se figure dans le voyage en Icarie, on le voit très bien, le système qui se met en place, c'est celui d'un communisme industriel. La particularité de toutes les utopies qu'on a vues, même si elle parle d'économie, on ne sait pas trop comment on va faire. Cabel, il a une idée, il explique, il a des formules assez étonnantes d'ailleurs, qu'on pourrait penser être des formules marxistes, mais qui ne sont pas, en disant la vapeur fera sauter l'aristocratie, le machinisme va entraîner un tel développement du prolétariat que le prolétariat renversera ce qu'il domine. Bon, cela dit, quand il dit Marx, il n'y comprend rien. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui peuvent cheminer. Est-ce qu'il va en tirer comme conséquence qu'il faut se situer sur le terrain de la lutte de classe? Non. Parce que finalement, les riches, c'est aussi une belle part de l'humanité, puis il faut les convaincre. Donc on a à la fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fois des gens qui font rentrer dans le corps social l'idée qu'il peut y avoir autre chose, puis à un moment, quand il faut passer à l'action, c'est pas forcément la leur qui va l'emporter. Il y aura bien plus de conquêtes ouvrières à travers les associations, à travers les internationales de travailleurs, à travers le développement des syndicats, qu'à travers les communautés utopistes qui vont partir. On est devant un communisme industriel. Et à chaque fois, les deux critères utilisés par Cabet, c'est l'égalité, ça, et c'est l'unicité. La République, elle est une et indivisible. C'est la République ou la communauté qui est seule propriétaire de tout, qui organise les ouvriers, qui fait construire les ateliers, les magasins. Donc, pour l'éducation, c'est ça aussi. On ne peut pas concevoir que quelqu'un y échappe. Et c'est ça, la critique qui va être faite à Cabet. On est en train de créer un monstre froid, une espèce de truc tentaculaire, quoi. C'est l'État, la communauté qui fait bâtir les maisons, qui fait cultiver la terre, qui fait fabriquer les objets nécessaires, la nourriture, qui ont le vêtement, le logement, l'ameublement. Elle nourrit, elle vêtit, elle loge, elle meuble chaque famille et chaque citoyen. Ça, la marge de manœuvre est quand même restreinte. Pareil pour la presse. C'est pas possible d'être contre ça, si on est démocrate ou égalitaire. Et donc la presse, elle n'est pas faite pour instiller comme ça des idées un peu pernicieuses. La presse, elle est là pour rapporter les choses. Les arts, c'est la même chose. Mais ça, on retrouve la formule de Babeuf que je vous disais tout à l'heure. Hein. Périssent, s'il le faut, tous les arts pourvu qu'il reste égalité réelle. Une société heureuse, elle n'a pas besoin d'artistes, hein, après tout. Donc, on peut reprocher à toutes ces constructions-là. L'égalité poussée à des conséquences paroxystiques comme ça. On est plus égaux que libres. Hein. La difficulté, quand je dis ça, pour moduler, c'est que dans le système actuel, avec la propriété, on est plus pauvre que libre. Hein. L'inégalité, c'est quand même le produit de la propriété. C'est pas mieux. Donc, on pourrait arriver à se dire qu'après tout, il n'y a pas de solution possible. Ce que moi, je ne crois pas, personnellement. Sinon, il n'y aurait pas d'acquis sociaux, hein, tout simplement. Mais donc, toute l'organisation administrative, quand on lit dans le voyage en Icarie, la représentation nationale, c'est tant de députés, c'est 103, il y a 103 communes, il y a 103 quartiers. Pourquoi 103, on ne sait pas. C'est parce qu'il a dû faire un truc en disant, ça va faire 103 mètres, et hop, la communauté s'installe dans l'Illinois, à côté de Chicago.
Ils sont combien?
Au départ, 69, après ils arrivent à 200. Ils n'auront jamais été plus de 1500 personnes. C'est pas beaucoup. Hein.
Ils ne sont pas beaucoup reproduits.
Ils avaient autre chose à faire. C'est l'expérience communautaire qui a été la plus longue. En même temps, ça s'est fait à des conditions de vie extrêmement difficiles. Pour se conformer aux préconisations, et puis l'objectif, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. C'est extrêmement dur. L'agriculture, c'est extrêmement dur. Concevoir l'ensemble du système politique comme ça, c'est extrêmement difficile. Ça a probablement tenu parce que c'est extrêmement minutieux. C'est très très bien pensé. Ils ne sont pas chômeurs. Hein. Et ils ont le temps de rien. Ils ont juste la possibilité de ne pas mourir de faim. Comprenez bien comment ça fonctionne dans l'esprit de Cabet. C'est pas parce qu'on va créer la communauté que d'un seul coup ça va marcher. Il faut ce qu'il appelle un régime transitoire. Déjà pour habituer les gens. Puis parce que, comme il ne faut surtout pas faire la révolution mais qu'il faut convaincre, on va montrer par l'exemple qu'on est les meilleurs. Et tout le monde va être enthousiasmé, stupéfait de la réussite, et tout le monde va se convertir à ça. Donc, sur un point tout petit dans l'univers, tout le monde va être bouleversé, et puis la conversion va se faire automatiquement. Donc, comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut prévoir une période transitoire, qui ne soit pas encore l'égalité complète, mais qui avance vers l'égalité. Cette idée-là, on en retrouvera une trace dans la pensée communiste postérieure. Les thèmes de la dictature du prolétariat ou le thème léniniste de la théorie du parti d'avant-garde qui doit réussir ce qu'a fait la bourgeoisie en peu de temps, mais sous contrôle et pour éviter qu'elle devienne exploiteuse, c'est ça. Le régime transitoire, c'est un régime qui, sous contrôle de l'État, sous contrôle de l'autorité centrale, doit permettre petit à petit d'habituer. et surtout de blesser personne. Quand on dit blesser personne, c'est surtout pas blesser les propriétaires. Alors, ils n'ont pas ce problème-là quand ils s'installent là-bas, parce qu'ils n'ont rien. Hein.
Donc, c'est... La terre de quelqu'un ?
Mais non, ils l'achètent.
Ils arrivent avec...
Oui, mais à l'époque, toutes les communautés qui partent, il y a les Icariens, il y a les fourriéristes, on achète des terres. Généralement, l'année d'après, ils reviennent parce qu'ils sont ruinés, parce que ça n'a pas marché. Les seuls qui tiennent, c'est les fourriéristes et puis les Icariens. L'idée de passage progressif, c'est un véritable dépassement de l'utopie. C'est plus simplement utopique si on dit ça va marcher dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, il faut habituer les gens. Alors c'est une dimension utopique qu'on trouvera dans la pensée socialiste et dans la pensée communiste, mais c'est, pour Cabet, c'est vécu comme quelque chose, ça va marcher. Ce que je vous ai écrit, ça ne va pas fonctionner tout de suite, mais vous verrez que ça ne peut que marcher. Alors, l'expérience américaine, comment ils ont fait ? C'est en 1847 que Cabet lance l'appel « Allons en Icarie ». Comme source pour ça, on a des choses assez extraordinaires, parce qu'on a des journaux, les annales qui ont été tenues par les différentes communautés, ils tiennent un journal de bord. Et puis on a des textes écrits par les Icariens eux-mêmes. Certains ont été réédités d'ailleurs il y a peu de temps. Ce qui relate, c'est des expériences politiques vécues. Donc voilà, Cabet lance son appel, allons en Icarie, troupe d'élite. Il y a un recrutement extrêmement rigoureux sur l'état de santé. Et déjà là, au départ, pour ceux qui partent, on leur donne un papier avec le trousseau qu'ils doivent avoir. Mais tout est détaillé. Hein. Ils partent évidemment sans argent, mais ils partent avec un trousseau complet. Je vous disais que Cabet part, il est retardé par la révolution de 48, il essaye de se faire élire, il peut pas, il part, il revient, il y retourne. Il n'est pas élu finalement, il part là-bas, il ne va pas en revenir. Alors en son absence ou dans sa présence, quelquefois par éclipse, bah, il se disloque, il y a la constitution de forces politiques. C'est un peu normal, c'est par affinité, c'est par différentes fonctions. Ils vont prendre des noms, disons le parti des Rouges ou le parti des Bleus. On a ça dans toutes les associations. Bah, ces gens-là sont quelquefois en conflit. Qui va diriger, qui va être élu, hein, tout simplement. Qui va siéger à la représentation nationale, qui va siéger dans les municipalités, qui va... Et donc c'est des dislocations successives, c'est des scissions successives. Et on travaille en permanence, parce qu'il faut tout faire. La production, les mômes, les écoles, les services, c'est tout, 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 tout. Le réveil le matin, c'est 4 heures, hein, et puis le soir, on se couche vers 23 heures. C'est des conditions très, très dures. Donc il y a des factions opposées, il y a des gens qui vont contester les modes de gestion, qui vont essayer d'être plus influents au sein des assemblées représentatives, ils vont critiquer les modes de gestion, et quand Cabet arrive, la communauté s'est déjà disloquée 2 ou 3 fois. Donc il va jouer, lui, dans un temps de sa propre autorité, en disant, bah, attendez... On va reprendre les choses depuis le début, ça marche pas mieux, ça calme un petit peu, mais il est même lui contesté. Ça, il le vit très mal. La communauté arrive à produire sa propre subsistance. Quand il faut se loger, se vêtir, se nourrir, s'habiller, éduquer les enfants, on y arrive. Assez bien. Ils sont épuisés, tous. Ils sont pas partis pour ça, quand même. Hein. Ils sont partis pour fonder un paradis. Alors certains laissent tomber. Soit ils reviennent en France, soit ils courent fortune aux États-Unis. Mais en tout cas, les divisions au sein même de la communauté se font de plus en plus violentes. Ils préservent les modes de production, parce que sinon ça s'écroule tout de suite. Mais il y a des contestations. Et il se passe un truc, mais invraisemblable. Cabet est tellement contesté qu'il est exclu de la communauté. C'est-à-dire que le fondateur de la communauté icarienne est exclu de la communauté icarienne parce qu'on lui reproche d'être un dictateur. Il ne va pas s'en remettre. Déjà qu'il était à moitié convaincu en partant par la révolution de 48 que c'était une bonne idée, il y a été parce qu'il était le promoteur de ça. Mais bon, là, ça l'achève définitivement. Et il a du mal, de toute façon, à expliquer aux gens avec qui il est parti que les choses vont aller mieux, puisqu'ils vivent des situations qui sont socialement de plus en plus difficiles. Ah, ils sont égaux, hein. Il n'y a pas de privilèges. Ils le payent cher. Hein. Et en fait, il s'affaiblit, il est déjà assez âgé, et il est emporté en 1856 par une hémorragie cérébrale. Et il meurt là-bas. Et il est enterré là-bas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, l'Icarie, elle est tombée à cause de contradictions internes, et surtout, il y a surtout un vice fondamental quand même, tout ça. On peut pas reprocher à Cabet d'avoir insuffisamment réfléchi à son projet. On peut lui reprocher de pas avoir compris une chose, en tout cas, ce que lui reproche l'ensemble de ses collègues révolutionnaires. c'est pas d'avoir créé ce monstre froid et tentaculaire dont on va parler Proudhon, c'est surtout d'avoir pu considérer que n'importe où, on peut commencer à vivre une société égalitaire. C'est pas montrer l'exemple aux autres de ce qui va se passer, c'est surtout s'abstraire du monde. Alors quand on s'abstrait du monde, on disparaît. C'est pas la voie à utiliser. Ça finit de façon un peu dramatique. Et juste pour conclure mon propos, quelle place il occupe, Cabet, dans la pensée politique? C'est une place assez singulière. Je vous disais, moi je pense que c'est la dernière des utopies existantes. En tout cas formalisée comme ça. Ce qui va exister par la suite au XXe siècle, par exemple, ce sera toujours des textes utopiques, mais qui vont être ce qu'on appelle des dystopies, par exemple. Je pense à 1984, ou Le meilleur des mondes. Alors c'est quelqu'un qui est, dans toutes les histoires du socialisme, ou l'histoire de, récemment encore, il y a quelques années, sorti une histoire des gauches en France, il y a trois lignes sur Cabet. Et je vous disais, moi, quand j'ai fait ce sujet-là, que j'avais choisi, c'était très bien, c'était en 85. La fois précédente, on en avait parlé, l'auteur, c'était en 1903. Alors, il y a eu un regain, non pas des études sur Cabet, mais il y a eu dans un dictionnaire des utopies publié chez Larousse, il y a un article qui a été rédigé. On va faire une demi-colonne. Et il y a un historien qui a dû s'intéresser à Cabet, mais non pas sous l'angle de ce que je vous ai présenté, qui est la formation de l'utopie communiste, mais de son rôle. C'est un personnage un peu atypique quand même. Il est utopiste et pourtant il n'est plus socialiste. En même temps, il habitue les gens à cette idée-là. Et de ce point de vue-là, c'est un apport irremplaçable. Donc, discuter avec n'importe quel mouvement révolutionnaire un peu partout quand il s'intéresse à ça, pas qu'en France, hein, quand on parle de Cabet, tout le monde est un peu attendri. Et juste pour finir, sur ce sujet-là, je ne sais pas, vous avez peut-être lu le livre d'Aragon qui s'appelle La Semaine Sainte. Or, La Semaine Sainte, c'est l'exil de Louis XVIII, etc. Aragon dit que ce n'est pas un roman historique, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Et il a à un moment une formule à la fin de l'ouvrage où un des révolutionnaires régicides de 1793 est en train de mourir et puis comprend pas forcément bien ce qui se passe. Et ce que dit Aragon à la fin de La Semaine Sainte, il s'adresse donc à ce personnage en disant « Rejette une fois pour toutes ces légendes menteuses qui veulent que l'ancêtre soit plus grand que le petit-fils. Les voilà tes fils, hommes de 93. Arrière qui a le cœur assez bas pour les juger suivant les lois de la caisse, le doit et avoir. » Et superbement sourit devant ces conspirations qui se succèdent. Ils y auront cru assez pour risquer les va-tout de la jeunesse et des langements de l'âge mûr. C'est l'époque où quelque part en France, à Lyon, s'élevait le drapeau ouvrier. Les ouvriers ne sont pas raisonnables, mais de quel côté puis-je être, sinon du leur? Voilà, il ne parle pas de Cabet, mais il parle de cette génération-là. Moi, Cabet fait partie de ces gens-là qui ont risqué les va-tout de la jeunesse et les langements de l'âge mûr.
Pourquoi du terme picari est au départ assez pessimiste? Parce que le mythe d'Icare, c'est un mythe négatif. C'est-à-dire qu'il finit par se brûler les ailes.
Oui, mais il approche le soleil.
Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il a choisi ce mot?
Non.
Jamais. Enfin, non.
Au départ, vous avez un peu insisté justement sur le fait qu'il ne s'appuyait pas du tout sur les analyses économiques, étant donné déjà par sa formation.
Oui.
Alors que Marx, lui...
Par sa formation, c'est l'inverse.
Il y a la critique de Marx positiviste qui s'appuie trop sur les sciences et l'économie et tout ça. Donc là, c'est une tendance complètement finalement opposée. D'abord la politique et ensuite les choses sociales. Est-ce qu'il parle des sciences à un moment?
Oui.
Du progrès? Est-ce qu'il parle du progrès?
Oui. Hein? Oui. Alors après, on rentre dans différentes interprétations. Moi, je peux vous donner mon opinion, mais parce que j'avais pris la précaution de commencer comme ça en vous disant je pense que c'est la dernière utopie existante. Ce qui est fantastique chez Cabet, c'est la capacité de lecture qu'il a et de synthétiser l'ensemble. On retrouve des traces de tout. Il y a une synthèse qui ramasse sous une forme explosive. Parce que c'est un enfant de la Révolution, hein. parce qu'il est partisan de l'égalité sociale, de la souveraineté de la loi, de la démocratie. Donc voilà, c'est une pensée qui est adaptée à la fin du XVIIIe siècle et puis à ce qu'il voit. Et puis à ce qu'il vit. Quand on vit deux empires, deux restaurations, deux républiques, il y a de quoi en faire vaciller plus d'un. Donc ça se construit dans le mouvement, ça. Pendant longtemps, dans les lectures, le peu de choses qu'on trouvait sur Cabet, ça fait partie des socialistes pré-marxistes. Parce que on trouve le progrès nécessaire. Le communisme Carré est un communisme industriel. Il faut le développement des machines, il faut la concentration à tout prix, parce que c'est ce qui va permettre de libérer, c'est émancipateur. C'est un monde qui est en train de changer. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter. Alors, Marx en fait l'objet de sa réflexion. Cabet, c'est pas l'objet de sa réflexion, son constat. Donc, c'est très voisin, c'est très ténu. Quand il dit « la vapeur fera sauter l'aristocratie, comme la lutte contre les privilèges a fait sauter la noblesse », c'est étonnant comme phrase. Hein. Moi, ça m'avait rappelé, il y a une phrase de Balzac à la fin de, je sais plus, j'ai le texte, un texte sur l'hôpital, qui écrit à la même époque, hein, en disant « la bourgeoisie offrira plus de têtes à couper qu'on a donné la noblesse, et si elle utilise des fusils, elle aura pour adversaire ceux qui les fabriquent ». C'est pas Marx qui écrit ça, c'est Balzac. Qui dit après Curie qu'il écrit la lumière de deux vérités éternelles, la monarchie et la religion. Curieux monarchiste et curieux religieux, quand même. Donc, oui, il y a chez Cabet ce côté, on prend en compte le réel. C'est ça qui est dramatique en même temps. Je prends dramatique presque au sens shakespearien. C'est pas un rêveur. Ce qui est dramatique, qui est invraisemblable, c'est de considérer qu'on va s'en abstraire pour pouvoir y revenir après en ayant montré qu'on est les. C'est fou, quoi, c'est fou. Beaucoup y voient donc encore une fois soit un pré-marxiste ou un pré-révolutionnaire. Moi, je pense pas. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un courant qui a commencé depuis bien avant. On trouve des traces de société communautaire chez Platon, hein. La Basiliade de Platon, c'est ça déjà. Quand je vous disais le travail qui avait été fait sur Cabet en 1903, c'est le communisme, c'est une idée immortelle comme l'espérance humaine. Ben voilà, on a ça depuis l'Antiquité. Cabet synthétise tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis comme utopie sociale ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la fin de quelque chose. Par contre, très vite, cette pensée-là va être supplantée justement par le socialisme marxiste. Où là, ça fait la preuve de son efficacité. Quand je dis ça, je me replace dans le contexte où c'est fait. Hein. Ça a armé la classe ouvrière pour obtenir des droits. Les expériences qui ont été menées en son nom, ça a été des échecs, c'est pas contestable. Mais ça invalide pas le travail de réflexion qui avait été fait. C'est pas... Cabet, il meurt bien en 1856. Il n'y a pas de doute. Et moi, je pense qu'il est mort bien avant. Je pense qu'il est mort en 1848, quand sort le manifeste du Parti communiste. Parce que là, pour le coup, on récupère bien une revendication politique, sociale, d'égalité sociale, et comme la formule de Marx, hein, les prolétaires, ils ont tout à gagner, ils n'ont plus rien à perdre. C'est en 1848. Il faut affronter directement le capital. Au XXe siècle, on retrouvera ça. Hein. L'année dernière, la mort de Castro... Il y avait la formule de Che Guevara, c'était ça.
Mao aussi. Hein.
Oui, on fait notre révolution dans la gueule du monstre, parce qu'on est à 80 km des États-Unis. C'est exactement ça. Je prenais cet exemple-là, parce qu'entre Cabet, d'une part, dans la construction intellectuelle extrêmement brillante, extrêmement réussie, extrêmement séduisante, et puis qui apporte énormément, puis la pratique dans les communautés, et je donnais l'exemple de Cuba, mais l'organisation de la révolution avec théorie des foyers révolutionnaires, c'est directement issu de ça. Hein. La Commune de Paris, elle s'inspirera également de ça. Avec le même type d'erreur. Hein. Imaginons que parce qu'on a créé une commune à Paris, ben ça va entraîner les autres. Ben ça n'entraîne rien. Par contre, ça laisse des traces. Je pense que c'est important de ne pas les laisser perdre. Parce que tout ça se construit quand même sur un fond de générosité. C'est le mot que je n'ai pas encore utilisé, mais c'est un fond de générosité incroyable.
Alors okay. Justement, générosité, c'est une notion où l'individu intervient. Contrairement à Marx qui, lui, il vous dit les forces productives, oui. La lutte des classes. C'est jamais l'individu.
Ah oui, je peux pas l'arrêter.
Et certains d'ailleurs lui reprochent. Oui. Alors que là, ce qui apparaît, c'est qu'il y a des notions liées à l'individu qui, pour moi, différencient vraiment tout ce mouvement-là. Et je mets George Orwell avec, oui. Par rapport au marxisme. Le socialisme scientifique, c'est à cause de ce mot-là et de tout ce qu'il y a en dessous qui s'oppose,
oui.
Pour moi, complètement à ce que vous nous avez exposé ce soir.
Quand on focalise sur un auteur comme celui-là, comme on aurait pu en prendre un autre, hein, ça aurait pu être Saint-Simon, ça aurait pu être Leroux, ça aurait pu être... Quand on fréquente ce genre d'auteur, on a une vue, un couple de ce que ça va donner par la suite qu'eux, ils ne peuvent pas avoir. Mais bien évidemment, pour eux, leur démarche, c'est pas forcément de réfléchir. C'est de réfléchir dans la totalité, mais en partant de situations individuelles. Les socialistes marxistes, parce qu'il n'y a pas que les partis communistes, il y a aussi tous les autres, ils font l'économie de ça. On est passé à une autre étape, déjà. Je ne sais pas ce que ça donnera dans 50 ans ou dans 100 ans. Il y aura forcément quelque chose de neuf qui va sortir de tout ça. Même des situations comme on vit aujourd'hui. C'est intéressant de retourner quand même sur des auteurs comme ça, parce qu'on vit des époques où on a l'impression, et c'est pas une impression d'ailleurs, qu'il n'y a pas de solution à court terme, on ne voit pas de perspective pour sortir de la crise, pour reprendre le vocabulaire. Mais moi, je suis convaincu qu'à un moment, ça aboutira. Comment, j'en sais rien.